écouter cette émission et consulter la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca.
À l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie en ce jeudi 2 mai 2024. Émission où on va parler, comme à chaque semaine, de trucs techno qui se passent dans l'actualité. Donc, naturellement, on va parler d'intelligence artificielle encore un peu aujourd'hui, mais on va aborder la question de qu'est-ce que le téléphone intelligent, donc pas le téléphone intelligent, mais intelligent. Le téléphone intelligent avec l'IA. Donc, un gros phénomène qui se met en place. C'est un petit buzzword en ce moment. On nous parle tout de la prochaine génération de téléphones qui va être accompagnée d'IA super puissante. Donc, je voulais creuser un petit peu plus derrière le mot et voir un peu qu'est-ce qu'on entend par ça, puis avec quoi les fonctionnalités auxquelles on peut s'attendre. Donc, ça, je vais parler de Spotify aussi, qui continue ses tests de personnalité un peu ludiques. Après, on va parler aussi d'un sujet sur lequel je suis tombé. C'est un article qui parle du retour de la page d'accueil face à l'écrasement des médias sociaux. Donc, je vais laisser ça en suspens. Ça va donner un petit point d'accroche pour le sujet un petit peu plus tard à l'émission. Mais donc, ça va être assez chargé aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voulais juste vous préciser que c'est la dernière semaine de la saison d'hiver de CISM. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va avoir une nouvelle programmation. Donc, plein de nouvelles émissions à écouter. Donc, suivez les actualités. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à l'infolettre de CISM parce que vous allez avoir toutes les nouvelles de la station. Tant il y a aussi longtemps qu'on est bloqué sur Facebook, je vais vous le rappeler de le faire. Mais aussi, c'est que pour l'été seulement, je vais changer de case horaire. Donc, si vous êtes des fans de l'émission, à partir de la semaine prochaine, je vais être en ondes les mercredis de 10h30 à midi. Donc, ça va changer un peu le créneau. Donc, mettez ça à vos agendas, comme ça vous allez pouvoir continuer à écouter l'émission à partir des semaines prochaines. Et à l'automne, je devrais revenir à cette plage horaire. Donc voilà. Qui parle d'Avez-vous du Wi-Fi? C'est la question de. C'est une question à laquelle on peut tous répondre par oui, mais là, figurez-vous qu'hier, j'ai obtenu un Internet plus rapide. Donc, j'ai du Wi-Fi, mais avec la fibre optique. Et je voulais vous parler du processus que ça aurait été de l'installation de la fibre optique. C'est mon anecdote de la semaine. On m'offre, avec ma compagnie Internet, donc d'avoir la fibre optique, l'upgrade gratuitement. Donc, on me promet une vitesse double et on me dit que la vie va être beaucoup plus belle avec un Internet plus rapide. Pas plus fou qu'un autre, je me dis pourquoi pas, je vais le faire et je prends rendez-vous. Mais on m'avait pas expliqué à quel point c'était compliqué le processus d'installation de la fibre optique. Donc, ça implique finalement que quelqu'un vienne chez moi pendant 3 heures pour faire des trous dans le mur, percer ma brique, passer des nouveaux fils. Il a fallu que j'aille chez mes voisins aussi pour corriger des installations précédentes qui avaient été faites par quelqu'un d'autre. Donc, ça a été tout un processus et ça m'a vraiment ramené au fait que, tu sais, des fois, on oublie toute l'infrastructure derrière l'utilisation d'Internet. Ça nous apparaît comme étant invisible, mais il y a tellement de choses qui doivent être mises en place pour que ça fonctionne. Et j'ai eu un rappel assez fort hier. Donc, après 3 heures, par chance, tout fonctionne. Mais j'ai maintenant un nouveau fil sur le mur et j'ai des anciens modems maintenant que je ne sais plus quoi faire. Je pense pas que personne n'a envie de... Je sais pas si ça se vend, là, des vieux modems, mais qu'importe. Maintenant, je peux surfer sur Internet 2 fois plus rapidement qu'auparavant. Donc, je sais pas ce que ça va faire à ma vie, mais peut-être que pour le futur, plus les technologies avancent, plus les sites sont énergivores, plus l'Internet prend de l'espace. Donc, on va se dire que d'ici quelques années, ça devrait être utile. Mais tenez-le pour dire, en fait, si vous avez une offre, parce que vous devez aussi parler à vos propriétaires si vous êtes locataire, parce que il peut y avoir des petits changements la bâtisse. Donc, c'est un drôle de processus. C'est aussi un processus pour lequel je n'ai pas été préparé en amont. Donc, ma compagnie d'Internet ne m'a jamais expliqué toutes les étapes l'installation. Donc, même si c'est alléchant les offres d'un Internet plus rapide, pensez-y bien avant de passer à l'acte. Donc, voilà. Maintenant, on va passer tout de suite en musique avec la chanson « Pellicule de corridor ». Et moi, je vous reviens pour la première partie de l'émission. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre les chansons Mes secrets de Maud Audet et ça a été suivi de Il a plu, il a neigé de Navet Confit avec Douance, chanson qui représente quand même bien la météo ces temps-ci. Mais donc, on passe déjà à la première, au premier segment de l'émission où on va parler des AI smartphones et j'ai cherché pour une traduction française de ce terme. C'est pas bien beau, donc j'ai pas trouvé un meilleur buzzword que AI smartphones. Donc, on va rester avec ça pour l'instant. Mais vous allez comprendre, en fait, que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle à même les téléphones. Donc, dans les dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé des sorties, des critiques par rapport à des nouveaux gadgets qui promettent de, justement, de délaisser notre utilisation d'intelligence de notre utilisation des téléphones intelligents. Donc on a parlé du Babbit, on a parlé du AI Pin qui ont vocation de remplacer les téléphones même et qui utilisent aussi de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même une grosse conversation en ce moment à savoir comment est-ce qu'on pourrait intégrer finalement l'intelligence artificielle à même les téléphones. Donc c'est pas prêt de disparaître, c'est beau bidule rectangulaire et donc là, ce qu'on prévoit, en fait, c'est qu'est-ce qu'on entend par des téléphones intelligents avec IA, c'est on va avoir une intégration de l'apprentissage automatique ou du machine learning à même les téléphones. Donc, on nous promet une expérience beaucoup plus réactive et beaucoup plus personnalisable sur nos téléphones intelligents. Donc, ça veut dire une meilleure expérience pour les utilisateurs et utilisatrices, des meilleures performances, entre autres dans l'utilisation de la batterie. Donc, on pourrait contrôler quelles fonctionnalités roulent quand pour mieux gérer la consommation d'énergie de nos téléphones. Après ça, les assistants personnels vont sûrement voir des mises à jour importantes. Donc, on peut parler de Siri. Je ne me rappelle plus c'est quoi avec Samsung, c'est Bixby, je ne me rappelle plus du terme. Ou dans... vu qu'il y a avec les téléphones Android, c'est tous les assistants Google, tout ça va être intégré avec l'intelligence artificielle. Donc, ils vont pouvoir réagir beaucoup plus directement lorsque vous posez des questions plutôt que juste vous renvoyer à des liens web. Ça va aussi se personnaliser à vous, donc à ce que vous voulez, ce que vous demandez, ce que vous avez l'habitude de faire comme poser comme question, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la base, mais si on parle des caractéristiques même ou des fonctionnalités qu'on pourrait voir, on parle beaucoup d'une amélioration de la reconnaissance faciale, donc au niveau de sécurité, ça serait plus fort et plus flexible. Aussi, tout ce qui est... les téléphones seraient plus aptes à répondre à un langage plus naturel, donc vous pourriez parler à votre téléphone comme vous le faites avec n'importe qui, il va pouvoir réagir et comprendre ce que vous lui demandez. Il y aurait même aussi de la reconnaissance d'image. Donc, Samsung a déjà annoncé quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle sur ses prochains téléphones Galaxy. Et entre autres, l'exemple qu'on donnait, c'était par exemple, vous avez pris une photo, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez encercler l'élément dans une photo et le téléphone va être capable d'aller lancer une recherche web à partir de cette commande-là. Donc, beaucoup de fonctionnalités de recherche qui vont être approfondies. On parle aussi beaucoup de prédictions. Donc, les téléphones vont non seulement être meilleurs pour prédire ce que vous voulez faire, mais aussi pour s'adapter à vous, votre propre comportement. Donc, il y aurait ça. Puis, on parle aussi beaucoup de caméras intelligentes. Donc, il pourrait avoir des analyses d'images en temps réel, des éditions automatiques selon le type de photos que vous essayez de prendre. Donc, il pourrait aussi avoir les photos qui vont ressortir, vont déjà être éditées. Les paramètres aussi vont s'ajuster directement. Donc, les téléphones vont être capables de lire les informations sur les images avant même que vous les ayez prises. Donc, ça, on vend toujours ça comme quelque chose de super intéressant. Mais déjà, moi, c'est un des premiers enjeux éthiques que je mentionne ici. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des soucis au niveau de la protection de l'information. Si, disons, je sais pas, mais disons que quelqu'un me prend photo puis que le téléphone est capable de me reconnaître puis que je sais même pas, disons, que la photo a été prise. Je suis pas sûr que ça me met 100% à l'aise. Donc, déjà, juste des fois, le rapport aux autres peut être différent, mais c'est aussi que ça va stocker énormément de données sur qu'est-ce qu'on fait parce que naturellement, ça va être capable de le faire. Il va avoir l'espace pour le faire. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des petits enjeux éthiques au niveau de la vie privée, du respect de la vie privée et de la protection de l'information. Donc, premier enjeu que je mets de l'avant. Donc ça, c'est un peu le portrait global de ce que vous pourriez voir avec les téléphones intelligents, les téléphones intelligents avec de l'IA. Et une autre fonctionnalité en fait clé, c'est qu'il y aura beaucoup en fait, l'utilisation de l'IA va pouvoir se faire directement sur votre téléphone. Donc on va avoir des téléphones beaucoup plus puissants avec des puces qui sont capables de rouler tout ça à même votre téléphone, donc vous n'allez plus avoir besoin de passer par des clouds. Donc, au niveau des sécurités et autres, ben, c'est quand même toujours mieux quelque chose qui roule localement que quelque chose qui roule en info nuagique, en cloud. Donc, il y aurait une amélioration de la sécurité dans notre utilisation de l'IA. Donc, voilà. Là, je vois que le temps avance vite et j'ai encore beaucoup d'informations sur le téléphone intelligent avec IA. Donc, on va prendre une petite pause pendant que vous faites une idée de c'est quoi la nouvelle génération de téléphone intelligent qui s'en vient. Et pendant ce temps, nous, on va aller écouter la chanson « Requin » de Akira et le Saba. Et moi, je vous reviens pour la suite de cette conversation sur le futur du téléphone intelligent.
Je vais marcher des pieds pour les faire manger au flic, au pain, au terre-feu, vieux de la vieille et au riche. primeur et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Criques à Crinquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
C'est votre animateur James Flamand. Chaque semaine, je programme pour vous une heure du meilleur de la musique autochtone du moment. Musique Première Nation, c'est dimanche à 10h sur CSM.
Hello, ici c'est Petit Béliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des Radio Campus de la planète Terre.
C'est Vincent et Julien de Double Date with Death. Vous écoutez CISM.
Toujours rien de prévu pour ton été 2024? Pas de panique. CISM continue de couvrir les festivals du Québec, les sorties culturelles de l'heure et de jouer du bon son pour ton chilling au parc. Abonne-toi à notre super infolettre qui t'enverra les dernières nouvelles de la station avec toujours plus de concours exclusifs. Justement, on t'offre la chance de gagner ta part de billets de 3 jours pour le festival Oceaga. La seule condition, c'est d'être abonné à l'infolettre. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le cism893.ca. Tirage au sort prévu le 13 mai.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Jesus.
Re-bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient entendre la chanson Entre les morts de Yocto et c'était précédé de Trompe-l'œil de Bon Enfant qui est au palmarès franco à la 24e position. Donc, avant la pause, j'ai commencé à vous parler des téléphones intelligents avec intégration de l'intelligence artificielle. Donc, on a pu un peu mettre un peu de contenu sur ce terme qui est un peu balancé à gauche et à droite qu'on regarde de l'actualité dans le monde des téléphones intelligents. Et donc, on sait que c'est la next big thing qui s'en vient dans cet écosystème et avec plein de nouvelles fonctionnalités qu'on nous promet révolutionnaires et qui vont rendre l'expérience encore plus intéressante pour les utilisateurs et utilisatrices. À prendre avec un grain de sel, naturellement, parce que vous savez, il y a toujours des petits enjeux éthiques avec tout ça. Mais donc, en fait, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est que les téléphones intelligents, on est en train de développer des puces et des fonctionnalités pour qu'ils puissent rouler l'intelligence artificielle à même les appareils. Et donc, c'est vraiment une intégration des modèles langagiers larges, des LLM, qui vont vous permettre de prendre en charge toutes sortes d'applications avec l'intelligence artificielle et que vous n'allez plus avoir besoin de passer par de l'info numérique parce que vos téléphones vont être capables de rouler tout ça. Donc, des téléphones beaucoup plus puissants et qui risquent d'ouvrir tout un nouveau monde d'applications qui vont utiliser ces fonctionnalités-là. Donc, il devrait y avoir beaucoup de nouvelles ou de nouveaux types d'applications qui vont voir le jour avec tout ça. Donc, c'est un peu l'écosystème dans lequel on se dirige. Puis, on parle aussi un autre terme qui commence à émerger dans cette conversation-là, c'est le « anticipatory computing ». Donc, on commence à parler de un téléphone qui va plus seulement être réactif, mais qui va être beaucoup plus apte à prédire ce que vous voulez faire. Et donc, on nous parle d'une intégration encore plus approfondie avec notre téléphone, d'une utilisation plus intuitive, qui va apprendre de nos habitudes et donc qui va être complètement personnalisé à comment nous, on utilise nos téléphones. Donc, on nous dit qu'on va avoir une intégration avec la machine beaucoup plus forte. Donc, ça, on aime... dans le monde de la techno, les gens aiment bien ça, là, de parler de ça, mais moi, c'est justement l'autre enjeu éthique que je soulève dans cette conversation-là, c'est est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme technologie? Donc, être encore plus accroché à nos téléphones et même avoir des téléphones qui pensent pour nous, qui vont penser en amont de ce qu'on va faire, donc ça va peut-être nous rendre aussi un petit peu plus paresseux, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas exactement si moi, c'est la chose qui m'enchante le plus en ce moment. Donc, je suis pas vraiment chaud à l'idée. Mais bon, dans ce domaine-là, j'ai pas l'impression qu'on va être capable de ralentir tout ça. Mais je ne sais pas exactement non plus comment... qu'est-ce que ça va apporter de mieux que ce qu'on a en ce moment. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, là, si on compare l'intégration des LLM, là, des modèles langagiers larges, c'est que vos téléphones vont être capables de rouler justement ces modèles-là et vous allez pouvoir générer du texte, mais aussi générer des images ou quoi que ce soit qui va être mis en place par les téléphones. Et donc, ça, à même votre téléphone, donc on va... beaucoup de gens qui vont pouvoir créer du contenu localement et ça vient avec tout son lot aussi d'enjeux éthiques par rapport à comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre du contenu qui a été créé par de l'IA ou du contenu qui est vraiment original. Donc, il va tout avoir des débats à ce niveau-là. Et bref, ça, on n'a pas fini d'en parler de tout ça. Et j'imagine que là, la course dans les téléphones, ça va être qui va offrir le premier téléphone qui va être capable de vraiment offrir toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on risque d'en entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Mais selon les prédictions, c'est pas encore un univers qui est prêt, même si on aime ça dire que là, les téléphones avec intelligence artificielle vont sortir dès l'année prochaine. Apparemment qu'il y a encore un peu de mise en place à faire. Donc, c'est pas pour tout de suite. On a le temps de réagir aussi, puis on a le temps de se préparer. Parce que je sais pas à quoi... C'est ça aussi le truc qui me dérange avec tout la conversation de l'intégration accrue à nos téléphones. Je ne sais pas pourquoi j'aurais envie d'être plus connecté, pourquoi j'aurais envie d'avoir une expérience encore plus personnalisée pour que je passe plus de temps sur le téléphone quand je trouve que j'en passe déjà trop. C'est sûr que les compagnies veulent ça, hein. C'est une économie d'attention, donc on veut aller chercher encore plus notre attention ou la solliciter davantage. Mais donc, il y a quelque chose là. Mais moi, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, ça m'intéresse plus ou moins de me retrouver encore plus en symbiose avec mon téléphone intelligent. Donc, C'est avec appréhension que je passe à la nouvelle ère des téléphones intelligents et ça me donne envie de m'accrocher à mon modèle le plus longtemps possible. Donc, on va espérer que ça roule assez longtemps pour que je puisse éviter la nouvelle vague de téléphones intelligents pendant encore quelques années. Mais donc, voilà, vous en pensez quoi de cette nouvelle ère des téléphones intelligents? On nous annonce souvent que c'est la fin des téléphones intelligents et qu'on va passer à une autre chose, mais ça s'accroche et on voit que c'est pas prêt de partir tout de suite, donc à suivre. C'est encore à suivre, il y a des développements, il y a peut-être une nouvelle fonctionnalité qui va faire en sorte que ça redevient le gadget pendant les 10 prochaines années, qui sait, mais on verra tout ça en temps et lieu. Là-dessus, on va l'écouter la chanson Bootleg de Sia Gray, qui est tirée de l'album Quality 2 EP et qui est au palmarès album à la 24e position. Bonne écoute.
si doux.
Bienvenue tout le monde à l'écoute avec vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre les chansons. La chanson L'air était si doux de Ambroise. Et donc là, on va changer de sujet. On ferme le thème intelligence artificielle et téléphone intelligent. Et on va plutôt parler de qu'est-ce qui se passe sur Spotify qui est un petit peu. J'ai pas envie de dire quête identitaire, mais qui propose beaucoup de nouvelles fonctionnalités, des fois un petit peu abstraites. On sent que l'application cherche quand même à offrir plus que simplement écouter de la musique. Et c'est une des. En fait, on a commencé à avoir des doutes par rapport à tout ça avec la dernière itération de le Music Review, le recap de l'année, donc en 2023, où on se faisait attribuer des villes ou des types de personnalités selon la musique qu'on écoutait. Donc, on dirait que Spotify se lance dans les tests de personnalité et ça me fait rire parce que ça me rappelle vraiment le pic, en fait, des tests de personnalité quand on était sur Internet au début des années 2000. Il y en avait partout, il y en avait à toutes les sauces. Et là, on dirait que ça refait surface dans le monde de Spotify. Et je vous parle de tout ça parce que cette semaine, je me suis fait offrir par Spotify de faire un test qui s'appelait quel est votre K-pop persona? Et donc, j'ai fait le test pour voir. Et c'est quand même très drôle. Donc, ça va vraiment chercher l'esthétique Y2K. Et vous devez répondre à quelques questions pour déterminer quel type de fan de K-pop vous êtes. Et ça va chercher tous les thèmes par rapport à tous les thèmes par rapport à la K-pop. Là. Donc là, moi, je me suis fait dire que j'étais un main visual, donc ça veut dire la personne la plus belle du groupe, attention. Et ça donne aussi des traits de personnalité comme l'élégance, la confiance, le mystère, l'audace et des trucs comme ça. Et ça vous attribue aussi une personnalité selon le votre écoute de la K-pop. Donc ça, c'est des tests qui sont par exemple disponibles pour les gens qui interagissent avec des styles musicaux précis. Donc ça veut dire, en toute honnêteté, ça veut dire que j'ai déjà écouté la K-pop. Donc faut vous en douter. Et apparemment que Spotify lance beaucoup de ce genre de petits programmes-là pour les utilisateurs et utilisatrices selon certains genres de musique. Donc il y a vraiment quelque chose qui est drôle à ce niveau-là. Et donc, à part le côté ludique, je vais vous avouer que c'est quand même très drôle. Ça peut être amusant de le faire. Il y a quand même quelque chose qui me fait rire avec tout ça, c'est que Spotify est vraiment maître dans le fait de nous vendre l'idée que c'est bien qu'ils utilisent toutes les informations pour les vendre à des tiers. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, ce que Spotify fait avec les questionnaires dans ce genre-là ou avec les palmarès de fin d'année, ben c'est juste nous packager nos informations d'une manière qui est très belle et très ludique. Donc, on a tous envie, après, de partager nos personnalités. Mais, dans le fond, ce que ça nous montre, c'est qu'ils collectent énormément d'informations et on ne sait pas trop ce qu'ils font avec ça. Donc, ils sont vraiment passés maîtres dans la chose et au point où d'autres services de streaming ont commencé à mettre en place des stratégies pour essayer de faire concurrence à ça. Parce que je pense qu'il y a même des gens qui ont quitté des services de streaming comme Apple Music pour aller sur Spotify pour avoir accès aux palmarès de fin d'année. Donc, c'est quand même fou que ça puisse fonctionner autant au fait que les gens vont s'attacher à une application juste pour avoir des résultats ou des données à la fin de l'année sur eux-mêmes pour en apprendre plus sur leur propre personnalité. Mais c'est intéressant quand même le fait qu'on s'attache autant à ces recherches-là de déterminer quelle personnalité on a, quel type de personne on est à travers le web et ça reste que c'est populaire depuis tellement longtemps. Si vous regardez, vous devriez faire le test de regarder vos souvenirs Facebook pendant quelques temps et aussi possiblement les supprimer si vous trouvez des trucs un petit peu gênants. Mais vous pouvez voir aussi les quiz auxquels vous avez participé sur Facebook. Et à l'époque, 2007-2008, on faisait juste ça, répondre à des tests de personnalité. Et c'était aussi des formes de collecte d'informations, j'en ai aucun doute. Donc, il y avait quelque chose qui se passait là, mais c'était... C'était quand même drôle de le voir avec Spotify cette semaine. Ça me fait rire, mais en même temps, je me dis, il y a quand même... Je me demande... je me dis juste, c'est quand même une fois de plus, on démontre à quel point on collecte de l'information sur nous et qu'on ne peut pas juste utiliser un service pour quelque chose de simple, comme écouter de la musique. Il faut aussi que ça vienne avec son lot d'accumulation de données. Mais je trouve aussi, je ne sais pas si j'ai tort, mais je trouve aussi qu'on voit vraiment un peu le fait que Spotify essaie d'être un petit peu plus qu'un service de musique, qui essaie d'offrir des expériences qui sortent de juste l'écoute musicale. Donc, il y a plusieurs essais qui ont été mis en place. Il y a même des formes de stories qui ont été mises en place sur Spotify. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regarder ces stories. Moi, personnellement, je ne regarde pas ça. Mais il y a quand même beaucoup d'intégration de nouveaux types de contenus sur la plateforme. Puis je pense que le but, ben, c'est qu'on reste plus longtemps là-dessus et qu'on soit, qu'on leur donne plus d'informations. Donc, il y a quand même il y a quelque chose qui se passe chez Spotify qui essaie de plus en plus de rendre l'expérience captivante pour, j'imagine, avoir plus d'informations et finalement en retirer un profit plus élevé. Donc, j'imagine que c'est ça le but ultime. Il faudrait voir à quel point tout ça, là, toutes les présentations visuelles, toutes les informations que l'app nous fournit sur nous, à quel point ça a permis d'aller chercher des nouvelles bases d'utilisateurs, utilisatrices, utilisateurs payants aussi. Donc, je ne sais pas si c'est des fonctionnalités qui sont réservées à ceux qui payent pour l'abonnement premium, mais il faudrait que je regarde un petit peu plus près. Mais tout ça pour dire que ça me fait rire et que c'est parti justement de cette offre cette semaine que j'ai eue pour savoir quel type de K-pop idol j'étais. Donc, quand même une drôle d'anecdote, mais ça a poussé la réflexion sur la collecte de données et ce que fait Spotify avec tout ça. Donc, si vous voulez aller faire le test, c'est directement dans l'application de Spotify. Et sinon, nous, pendant ce moment, on va écouter la chanson Journée comme celle-ci de Peter Peter. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission.
ces journées comme ça. On oublie qu'il y en a. Puis lorsqu'elles surviennent, elles valent toute la peine.
soirée, bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient entendre la chanson Madone de Virginie B qui était au palmarès franco à la 6e position. Donc, on va lâcher les tests de personnalité chez Spotify, mais je vous invite quand même à aller découvrir quel type de K-pop idol vous êtes. Mais on va parler, en fait, d'un article que j'ai lu aujourd'hui que je trouvais vraiment intéressant qui parle du retour de la page d'accueil des sites web. Et donc, le titre en anglais, c'est The Revenge of the Homepage, qui a été écrit par Carl Chelka, qui est sur The New Yorker. Et en fait, c'est... Ça parle du retour à ce format-là qu'on pensait désuet ou même complètement mort, donc la fameuse page d'accueil des sites web, parce qu'on disait que ça avait été remplacé par les plateformes de réseaux sociaux et que ça servait à rien d'entretenir une page d'accueil dédiée pour son site web personnel. Donc, si vous pensez à une publication comme, disons, Le Devoir, l'argument, c'est que ça sert à rien d'avoir une page d'accueil élaborée parce que, de toute façon, tout se partage sur les médias sociaux avec des liens. Donc, pas besoin d'investir là-dedans. Mais l'exemple qui est pris dans l'article, c'est celui de The Verge qui a fait figure d'exception pendant vraiment longtemps en investissant toujours beaucoup d'argent et de temps sur leur page d'accueil qui a toujours été quand même assez... beau, on pourrait dire, d'un point de vue design, et qui a eu quelques mises à jour majeures, la dernière en 2022. Donc, un nouveau design complètement différent et qui détonnait avec tout ce qu'on voyait sur le web à ce moment-là. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le site continue de partager ses articles et les articles, c'est souvent de l'actualité sur le monde de la techno, mais aussi des reviews sur les produits techno qui sortent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le Babbit Air One a été finalement analysé et a eu la note de 3 sur 10. Donc, le constat, c'est que ça vaut pas encore la peine de délaisser nos téléphones, mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, le site vous propose ces articles comme n'importe quel site, mais c'est entrecoupé d'informations, par exemple, de tous les gens qui contribuent au site, donc comme des posts sur une plateforme comme Twitter ou sur Facebook. Donc, vous pouvez voir comment, des fois, les journalistes qui travaillent pour The Verge réagissent à certaines actualités techno. Donc, ça devient un petit peu plus personnalisé comme expérience et il y a un côté plus dynamique, donc qui rappelle les plateformes de médias sociaux qu'on connaît très bien. Donc, au début, quand ce changement-là s'est opéré, tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Moi-même, je me rappelle avoir été sur la page et me dire « Mais qu'est-ce que c'est? » Tu sais, ça a l'air un peu d'un blog. On ne savait pas trop c'était quoi le format. Mais il semble que l'article, en fait, dit que peut-être que The Verge avait raison de faire ce redesign-là. Et il y a maintenant plusieurs compagnies qui sont en train d'essayer de faire la même chose. Donc, de remettre leur page d'accueil de l'avant. Parce que on se rend compte qu'il y a... Parce qu'il y a de moins en moins, en fait, de médias sociaux qui sont aussi performants qu'avant. Parce que c'est ça, la question au début, c'était l'étonnement face à ce changement-là. Parce que la question, c'était pourquoi essayer de remplacer les médias sociaux? Donc, parce qu'ils font tout de toute façon mieux et ils ont plus de moyens. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que les médias sociaux sont de plus en plus... il y a comme un peu une chute, un désenchantement face aux médias sociaux. Vous pouvez, on a juste à nommer qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter, qui est maintenant X avec Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe avec Facebook, qui est plein de pages un peu bizarres de contenu qui est généré par l'intelligence artificielle, de désinformation. Donc, le contenu, mettons, médiatique se perd dans cette mer d'informations qui devient de plus en plus difficile à décortiquer. Donc, il y a ça qui se passe. Donc, il y a un certain retour vers les sites web même. Donc, les gens vont plutôt aller visiter chaque site web individuellement plutôt que d'essayer d'aller chercher leur information sur les médias sociaux. Donc, on parle maintenant des sites web comme étant la place où on peut aller voir du contenu de manière plus posée. C'est plus contrôlé. On n'a pas besoin d'avoir des informations sur tout. Donc, les gens trouvent ça reposant dans un écosystème où... Sur les réseaux sociaux, on voit des informations de tout, un peu n'importe comment, et constamment, donc ça peut être épuisant à la longue. Donc, naturellement, il y a une question qui se pose, c'est même si les sites web sont plus dynamiques et qu'on voit un certain engouement envers le retour des sites web, est-ce que ça peut vraiment faire concurrence aux plateformes? C'est une grosse question, mais même si la réponse est non, il y a quand même... dans l'article, on note que c'est quand même une porte de sortie et qu'on peut utiliser ça pour essayer de reprendre en fait un peu de pouvoir face aux médias sociaux et essayer de couper la dépendance qu'on a envers ces plateformes et leurs compagnies propriétaires. Donc, c'est un article que je trouvais intéressant, puis je suis aussi vraiment d'accord sur le fait que c'est le fun d'avoir des sites web qui sont maintenant plus diversifiés et un retour justement à l'éclectisme sur le web et pas juste tout le temps les mêmes formats de pages qui ont été créés sur le même générateur de sites web, disons. Donc, ça, c'est le fun, mais je trouve aussi que ces conversations-là pointent vers... Je note un certain désenchantement vers le modèle actuel des médias sociaux et on dirait que les gens sont prêts à retourner à d'autres méthodes pour rester en contact. Ça m'arrive souvent de parler à des gens qui retournent à l'infolettre, donc qui préfèrent de passer, retourner à des méthodes qu'on considère comme étant plus archaïques, mais qui trouvent plus personnalisables et moins épuisantes que, disons, développer une page sur les médias sociaux. Il y a aussi des gens qui sont prêts à retourner à... C'est qu'ils savent que en fait, leur page ou leur profil sur les médias sociaux sont, sont temporaires ou peuvent disparaître du jour au lendemain. Et donc, essaient de trouver des manières de se détacher de tout ça. Donc, je pense qu'il y a un désenchantement envers ce que les plateformes sont en mesure de nous offrir et l'expérience en général. Donc, on dirait que ça fait en sorte qu'il y a certaines choses qu'on croyait désuètes qui reviennent de l'avant. Ça, je trouve ça quand même intéressant, tout ça. Puis... je trouve que ça nous mène peut-être vers une voie où on va pouvoir revoir une certaine forme de diversification des expériences sur le web et ce sera pas nécessairement homogène parce qu'on avait, on dirait qu'on a comme atteint le pic où on était tellement dans les plateformes de médias sociaux puis on dirait que chaque plateforme imitait les autres. Donc finalement, on faisait toujours les mêmes affaires sur les mêmes plateformes. Donc ça devenait un petit peu plus... c'est ça, l'expérience était tout le temps homogène qu'on passe d'Instagram à TikTok. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser vers d'autres choses. Il y a des trucs intéressants qui se passent à ce niveau-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article qui s'appelle « The Revenge of the Homepage ». C'est sur The New Yorker. Et nous, on va aller en musique et on va aller écouter la chanson « Oz of Na » de Bonnie Banane. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission.
Yeah.
Heureux bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez entendre la chanson Cyber Meat de Yul qui, voilà, c'est la chanson. Et donc, avant de conclure, je voulais passer quelques petites nouvelles en rafale. Donc, il y a FKA Twigs, la chanteuse et artiste qui est passée, qui a fait jaser cette semaine dans le monde la techno parce qu'elle... Elle a écrit un témoignage en lien avec l'intelligence artificielle et son utilisation dans les arts. Et c'était quand même intéressant, en fait, son point de vue, que, elle a présenté ça au Sénat américain. Et l'argument qu'elle mettait de l'avant, c'est que, l'IA peut être utilisée comme étant un outil créatif et commercial, mais il faut qu'on puisse mettre des lois et des bases pour que les artistes puissent consentir et, quand même garder un contrôle sur leur représentation à travers l'intelligence artificielle. Et donc, je pense qu'elle fait écho à déjà beaucoup de conversations qui ont lieu dans le monde culturel, c'est-à-dire faut encadrer l'IA pour ne pas être tout simplement remplacé ou que notre image soit utilisée sans consentement. Ça a été un des points clés, en fait, aussi de la grève des écrivains et des acteurs aux États-Unis, donc quand même paralysé une bonne partie d'Hollywood pendant plusieurs mois. Mais donc là, on voit aussi qu'il y a d'autres personnes dans ce milieu-là qui s'expriment sur le sujet. Et fait intéressant aussi, FKA Twigs dit déjà travailler sur une version d'elle-même en deepfake. Et je pense que le but, c'est de développer déjà quelque chose pour qu'elle puisse garder un certain contrôle sur les images qu'elle pourrait avoir d'elle. L'argument est en soi... intéressant, surprenant, mais donc je vous invite à aller lire ça si ça vous intéresse. C'est une conversation intéressante sur le futur de l'intelligence artificielle. Au début, j'avais peur que ça, quand j'ai lu le titre de la nouvelle, je pensais que ça allait faire FKA Twigs et comme Grimes et Pro AI, donc j'ai eu très peur, mais finalement, ce n'est pas le cas, donc un discours quand même assez différent et plus nuancé, donc j'apprécie beaucoup, parce que les propos d'artistes comme Grimes sur la chose sont vraiment un peu... Donc, c'est pas étonnant, là, on s'entend qu'elle a été avec Elon Musk et que c'est vraiment pas la personne que je préfère dans le monde de la techno, mais donc ça m'avait fait un petit peu peur. Sinon, je parlais aussi un petit peu avant l'émission avec Étienne Dubuc, directeur général de la station, et j'avais oublié de le noter cette semaine, mais il y a la neutralité du web qui refait surface dans les nouvelles sur la techno. Donc, c'est un gros sujet il y a quelques années. Et en fait, la neutralité du web, c'est vraiment le concept qu'on essaie d'interdire d'une certaine manière que des compagnies puissent favoriser certains sites ou certains services. Contrôler un peu votre expérience du web selon leurs propres intérêts commerciaux. Et il y avait une loi qui avait été adoptée en ce sens-là, mais naturellement, sous Trump, toute la neutralité du web avait été effacée. Et là, ça refait surface et je pense que ça vient d'être implanté à nouveau. Donc, il va y avoir des conversations là-dessus et voir comment les balises, comment les compagnies peuvent être balisées pour ne pas faire la concurrence et en fait garantir que le service, notre accès à Internet est le même pour tous, tout dépend, et ce, peu importe en fait le service qu'on utilise, c'est ça qui est important. Donc je vais sûrement revenir là-dessus dans les prochaines semaines, un petit peu plus en détail, mais c'est pas mal là-dessus que l'émission se termine aujourd'hui, donc merci d'avoir été à l'écoute et comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site web de CISM si vous voulez écouter l'émission d'aujourd'hui ou les émissions des semaines précédentes. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, l'émission aura lieu le mercredi et non plus le jeudi. Donc, un petit changement. Et aussi, si ça vous intéresse, allez voir toute la grille des nouvelles émissions qui vont bientôt arriver en ondes. Et sinon aussi, abonnez-vous à l'infolettre pour rester à l'affût de tout ce qui se passe de beau à la station. Nous, on se quitte aujourd'hui sur la chanson « Rock'n'Roll sur ton chemin » de Jonathan Person. Et je vous dis encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.
Alexandre.
Oui, Simon.
C'est quoi ton nom?
Mon nom, Alexandre.
Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM.
J'aime CISM.
Allô, on est le groupe de musique normale Crabe et vous écoutez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM CISM, 110% la marge.
Code d'accès vous invite au concert Flore Temporelle, présenté le 11 mai à 19h30 au studio 303. L'ensemble Silience propose une expérience immersive alliant création musicale, art vidéo et mouvement. En collaboration avec les compositrices Salomé Perli et Florence Tremblay, les vidéastes Myriam Boucher et Tristan Alentard et la chorégraphe Stéphania Scorina. Pour plus d'informations, consultez leur site web au codedaccès.org.
Ici CRI, vous écoutez CISM.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Salut, ici Laurence Anne. Vous êtes sur les ondes du séisme CISM 89.3. Je sais où je...
Le 2 mai prochain, pour la dernière session live de la saison, CISM s'invite au URSA pour une prestation de Calamine devant public. Calamine présentera des extraits de Décroissance personnelle, son troisième album paru au début du mois d'avril, et il répondra à nos questions super importantes sur plein d'affaires. Venez voir Calamine en session live au URSA, 5589 Avenue du Parc, le jeudi 2 mai, de 19h à 20h. C'est ouvert à tout le monde, puis c'est gratuit.